Une maison est détruite lors d'un incendie. Un homicide a été commis et il semble que le brasier ait effacé la piste qui menait au meurtrier. Une femme est trouvée morte dans sa maison. Les détectives croient d'abord qu'il s'agit d'un suicide, mais ils doivent bientôt se raviser. Les indices sont inhabituels et on ignore s'ils permettront de prouver qu'un meurtre a été commis. Un tueur mène les enquêteurs sur une fausse piste. La criminalistique leur permettra-t-elle de rebrousser chemin et de découvrir la vérité ? Pour résoudre une enquête, les autorités policières doivent savoir à qui faire confiance. C'est extrêmement difficile lorsque les principaux acteurs ont orchestré une supercherie. À 6h37, le 2 août 1992, la caserne de Evansville, en Indiana, était en état d'alerte. On venait de signaler l'incendie d'une résidence. Une femme se trouvait à l'intérieur, piégée par les flammes. La chaleur du brasier empêcha les pompiers de la secourir. Il était impossible de traverser l'épaisse fumée, et en particulier dans la chambre à coucher où la victime se trouvait. Les pompiers parvinrent à maîtriser les flammes, mais il était malheureusement trop tard. La femme était déjà morte. Il n'est jamais facile de côtoyer la mort d'aussi près, mais cette fois-ci, les pompiers présents étaient particulièrement touchés. L'homme qui avait donné l'alerte était l'agent de police Patrick Bradford. Après la fin de son quart de travail, il avait garé sa voiture et remarqué de la fumée s'échapper de la maison de Tammy Lore, 24 ans. Et maintenant, elle était morte. Lore travaillait comme geôlière au service du comté. Elle rêvait de faire une carrière au sein des forces policières et de devenir agent de police. Une fois les flammes maîtrisées, les pompiers retirèrent la victime de la maison incendiée. Les investigateurs commencèrent à circuler dans la maison afin de déterminer ce qui avait pu provoquer le brasier. Pour Jesse Story, investigateur en incendie à Evansville, une seule conclusion était possible.
Nous avons effectué un examen préliminaire et remarqué des traces de brûlure suspectes sur la moquette. Le genre de traces que l'on retrouve quand on utilise un agent accélérateur pour déclencher un incendie.
Les flammes avaient fait une longue trace entre le lit et la porte de la chambre à coucher. Les investigateurs remarquèrent un bidon d'essence au centre du brasier. Ils recueillirent des échantillons de la moquette afin de les faire analyser et confirmer la présence de combustible. D'autres signes indiquaient également qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Les disjoncteurs du circuit de la chambre à coucher avaient été désactivés avant l'incendie, les fils téléphoniques coupés et court-circuités. Toute personne qui aurait tenté d'appeler à la maison aurait obtenu le signal d'une ligne occupée. De plus, le panneau de la trappe qui menait au grenier était par terre, à l'extérieur de la chambre à coucher. À en juger par les traces de suie, il avait été enlevé avant l'incendie. L'investigateur Michael Ford, de la police d'Evansville, était présent lors de l'analyse des lieux.
Il était évident que les flammes qui sortaient de la chambre à coucher avaient été alimentées par le courant d'air créé par l'ouverture de cette trappe, juste à côté de la porte de la chambre. Cela a contribué à attiser les flammes et à créer un brasier encore plus puissant.
Il manquait une pile dans le détecteur de fumée retrouvé dans la maison. Les investigateurs terminèrent l'analyse de la chambre et poursuivirent leur examen dans le reste de la résidence. Dans la cuisine, une fenêtre avait été maintenue ouverte par une des bagues de la victime. De plus, la moustiquaire avait été découpée. L'endroit était difficile d'accès et l'ouverture étroite, mais il était possible que l'incendiaire se soit infiltré dans la maison à cet endroit.
Voici les dimensions exactes de la fenêtre de la cuisine. Juste sous cette fenêtre se trouvait l'évier. À l'arrière, il y avait toute une série d'objets. Si quelqu'un était entré par cette fenêtre, il les aurait renversés. Les chaudrons et les plats à cet endroit seraient tombés et auraient fait beaucoup de bruit.
S'il y avait eu entrée par effraction, le mobile du crime n'était pas évident. Aucun objet de valeur n'avait été volé. Les experts concentrèrent à nouveau leur attention sur la fenêtre. Quelque chose clochait. En effectuant un examen plus poussé, ils découvrirent que la personne qui avait découpé la moustiquaire tentait plutôt de sortir de la maison que d'y entrer. En effet, l'angle du coup de lame démontrait que l'individu l'avait entaillé de l'intérieur.
Nous avons déterminé que cette personne a découpé la moustiquaire de l'intérieur à l'aide de sa main droite en se penchant par-dessus le comptoir. La découpe a été faite initialement à droite, assez bas, et se poursuivait vers la gauche en montant. Cela indiquait que l'individu était droitier, et il était plus probable que cela se soit fait de l'intérieur que de l'extérieur.
Pendant que les investigateurs examinaient les indices, l'agent Bradford se rendit au poste de police pour donner sa version des faits. Bradford était entré dans la maison en flammes. Comme il était la personne qui s'était trouvée le plus près de la victime avant sa mort, la consigne l'obligeait à remettre son uniforme aux analystes. Les experts espéraient y trouver des indices. De l'aveu même de Bradford, la victime était sa maîtresse. Il l'avait vue pour la dernière fois à 22 heures le soir précédant l'incendie, alors qu'il se rendait au travail. Lorsqu'il avait terminé son quart de travail vers 6h30 le matin, il avait décidé de s'arrêter chez elle. Alors qu'il arrivait dans la rue, il avait aperçu de la fumée s'échapper de sa maison. Il s'était alors empressé d'y entrer et, en rampant, il s'était rendu jusqu'à la chambre à coucher où il avait aperçu le lit en flammes. Il n'était pas parvenu à sauver Tammy. C'est à ce moment qu'il avait appelé à l'aide en se servant de sa radio. L'entrée par effraction semblait avoir été fabriquée de toutes pièces. Cela signifiait que Laure connaissait son meurtrier et qu'elle lui avait ouvert la porte. Bradford suggéra au détective Guy Minnis d'interroger les anciens collègues de travail de Laure.
Patrick nous a dit que Tammy avait eu des démêlés avec un gardien qui travaillait avec elle. Le jour où son corps a été découvert, il a été l'un des premiers suspects à être interrogé.
Selon Laure, son collègue lui avait fait des avances sexuelles. Elle lui reprochait également d'abuser de sa force envers les prisonniers. Cette plainte avait coûté au gardien son emploi et depuis, il était l'ennemi juré de Tammy Laure. À l'interrogatoire, il déclara qu'il était resté à la maison toute la soirée et la nuit et qu'il n'avait d'ailleurs pas quitté le lit avant 7 heures du matin. Sa femme confirma l'alibi.
Lors de l'interrogatoire, j'ai eu l'impression qu'il disait la vérité. J'étais attentif aux réactions de sa femme, étant donné qu'elle était debout en arrière pendant notre conversation. Lorsqu'il nous a dit où il était et avec qui il était, elle n'a eu aucune réaction.
Les analystes avaient maintenant terminé de recueillir les principaux indices. Malheureusement, on ne disposait toujours pas de suspects ni de mobiles. Mais la victime elle-même s'apprêtait à livrer aux investigateurs de précieuses informations. Les investigateurs en incendie d'Evansville étaient tous convaincus que le brasier qui avait coûté la vie de Tammy Laure était criminel. Malheureusement, l'incendie avait détruit la majorité des indices. On ignorait tout du coupable et de son mobile. L'autopsie fournit des informations surprenantes. Tammy Lore était déjà morte lorsque l'incendie s'était déclaré. Elle avait été poignardée à 21 reprises et il n'y avait aucune trace de suie dans ses poumons. Les flammes n'avaient servi qu'à dissimuler l'homicide. Les policiers espéraient que l'uniforme de l'agent Bradford recèlerait quelque chose. Au laboratoire, Jesse Story analysa ses vêtements pour y trouver des traces de combustible. Les agents accélérateurs sont généralement à base de pétrole et donc très volatiles. Le détecteur d'hydrocarbures absorbe le combustible au moment où il s'évapore. L'appareil peut déceler des molécules d'agents accélérateurs de l'ordre d'une partie par million. Il n'y avait aucune trace de combustible sur l'uniforme de Bradford. C'était plausible. Il avait déclaré qu'il avait rampé dans la maison et qu'il s'était arrêté devant la porte de la chambre à coucher. L'agent accélérateur avait été répandu uniquement dans la chambre, ce qui expliquait pourquoi il n'y en avait aucune trace sur ses vêtements. Les analyses de la moquette de la chambre confirmèrent, elles, la présence de l'agent accélérateur. Au laboratoire, on compara les fibres sur les vêtements du policier aux rares fibres qui avaient résisté aux flammes. L'uniforme de Bradford ne contenait aucune d'entre elles. Ce fait était pour le moins étrange, compte tenu qu'il avait déclaré avoir rampé pour sauver Tammy. Si ces déclarations étaient vraies, on aurait normalement dû retrouver des fibres de la moquette sur lui. La version de Bradford semblait de plus en plus suspecte. Les détectives craignaient que sa femme, Dawn, et lui n'en sachent plus que ce qu'ils avaient déclaré. Le policier fréquentait Laure à l'insu de sa femme depuis 4 ans, et l'aventure ne semblait pas vouloir se terminer bientôt. Dawn soupçonnait son mari de lui être infidèle. C'était peut-être elle qui avait comploté le meurtre de sa maîtresse. Patrick et Dawn furent convoqués pour passer le test du détecteur de mensonges. L'appareil mesure toute variation dans le rythme cardiaque, la respiration et la pression sanguine qui se produisent lorsqu'un individu ment. Dawn fut soumise au test et ne sembla pas avoir été au fait du crime avant qu'il n'ait été commis. Son nom fut retiré de la liste des suspects. Quant à Patrick, les résultats n'étaient pas concluants. Un autre test fut prévu pour la semaine suivante. Entre-temps, les policiers poursuivaient les interrogatoires en espérant découvrir ce qui s'était produit dans la maison de la victime. Un voisin déclara que Bradford semblait distrait ce matin-là. Il l'avait presque heurté en garant sa voiture dans l'allée menant à la maison. Il s'était alors salué. De plus, Bradford ne semblait absolument pas paniqué et aucune fumée ne s'échappait de la maison. D'autres témoins qui étaient passés en voiture devant la maison le matin de l'incendie avaient bien aperçu le véhicule du suspect garé dans l'allée, mais n'avaient vu aucune fumée. Lorsque le camion de pompiers était arrivé sur les lieux, soit 3 minutes 40 secondes après l'appel de Bradford, l'incendie avait déjà complètement ravagé la chambre à coucher. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas s'être déclaré longtemps avant l'arrivée du policier. Mais la vraie question était de savoir s'il s'était déclaré avant ou après qu'il soit arrivé. Pour prouver qu'il avait disposé de suffisamment de temps pour allumer l'incendie, Menis commença par dresser une liste des activités du suspect. Sur son chemin vers la maison de Laure, le policier devait passer devant un guichet automatique dont la caméra faisait face à la rue. Le détective réquisitionna le ruban de la caméra du matin de l'incendie. La voiture de Bradford était bel et bien passée devant le guichet en direction de la maison de Laure à 6h34. Soixante-cinq secondes plus tard, il avait appelé le service de police. Menis refit la route de Bradford, montre en main. 18 secondes étaient nécessaires pour franchir la distance entre le guichet et la maison de la victime.
Bradford a fort bien pu allumer l'incendie pendant les 65 secondes dont il disposait. Entre le moment où il est passé devant le guichet automatique et celui où il a avisé le service de police, il avait amplement le temps de verser le combustible, d'y mettre le feu, puis de faire son appel.
Il lui aurait été cependant impossible de tuer Tammy Laure, de couper l'électricité et la ligne de téléphone et de fabriquer de toutes pièces la fausse entrée par effraction. Cette partie de la reconstitution n'était pas encore faite et les détectives espéraient que Bradford apporterait les informations manquantes. Ce dernier se présenta pour subir son second test du détecteur de mensonges. On lui posa des questions très spécifiques à propos de la mise en scène du crime. Il nia catégoriquement être impliqué dans cette affaire, mais il échoua son test. Bradford ne disposait pas de suffisamment de temps pour tuer Tammy. L'incendie avait été allumé le matin, mais cela ne signifiait pas nécessairement que le meurtre ait été commis au même moment. Malheureusement, l'état de la dépouille ne permettait pas de déterminer précisément l'heure de sa mort. Tammy avait parlé au téléphone avec son père à 22h30 la veille de l'incendie. Elle avait donc été tuée entre ce moment et 6h30 du matin. Les détectives examinèrent le registre où était consigné l'emploi du temps de Bradford. Il était incomplet. Peu avant 23 heures, il avait avisé ses collègues qu'il prenait une pause pour faire quelques courses. Il y avait ensuite un trou d'une heure au cours duquel on ignorait où il se trouvait. À l'aide de ces nouvelles informations, les détectives retournèrent à leur dossier. Ils interrogèrent les voisins pour la seconde fois. Une femme avait roulé au-dessus de la limite permise dans le secteur, puis avait aperçu une voiture de police garée dans l'allée de la maison. Elle avait jeté un coup d'œil à son indicateur de vitesse et ralenti. Il était environ 23 heures. Les détectives d'Evansville savaient maintenant que Bradford se trouvait dans la maison la nuit du meurtre et qu'il avait disposé du temps nécessaire pour le commettre. Ces informations permettraient de procéder à son arrestation. Pour ce qui est du mobile, la relation entre Bradford et Laure s'était détériorée depuis quelque temps. Les policiers croient que le soir du 1er août, le couple s'est disputé et que leur dispute s'est soldée par le meurtre. La conductrice qui a aperçu la voiture de patrouille sur la scène et le registre de l'emploi du temps de Bradford démontre que cette hypothèse est vraisemblable. Il est retourné chez elle le lendemain matin comme d'habitude. Mais cette fois-ci serait la dernière. Il désirait terminer ce qu'il avait commencé la veille. Il a versé de l'essence et mis le feu. Patrick Bradford fut jugé coupable de meurtre et d'incendie criminel et condamné à 80 ans d'emprisonnement. Un meurtre est un peu comme une liaison clandestine, en ce sens qu'il se produit à l'abri des regards indiscrets. Mais un crime aussi grave qu'un homicide ne peut résister très longtemps à l'analyse attentive des experts. Le petit village de Farmville porte bien son nom. Niché au creux des collines du centre de la Virginie, il ne compte que 6000 habitants et il a conservé le charme de la vie à la campagne. Même les villages les plus paisibles ne sont pas à l'abri d'un drame. Le 11 décembre 1991, peu après 13 heures, les policiers de Farmville reçurent un appel. Un coup de feu avait eu lieu chez Robert Bruce. Le détective Jack Bryant fut immédiatement dépêché sur la scène. Ce genre d'événement était plutôt rare dans la région, sauf que cette fois-ci, ce n'était pas tout à fait une surprise.
Je roulais sur la rue principale. J'ai reçu l'appel radio du service de police me demandant de me rendre au 600 High Street, où il y avait eu un coup de feu. Ma première réaction était de penser que M. Bruce s'était suicidé. Ce dernier venait d'être inculpé pour détournement de fonds.
La police commençait son enquête sur la base d'une présomption. Présomption qui allait immédiatement s'écrouler puisque c'est Robert Bruce lui-même qui répondit à la porte. Les agents de police furent surpris de constater que la victime n'était pas Bruce, mais bien sa femme, Carol. Elle s'était suicidée. Robert Bruce déclara au détective qu'il s'était disputé avec sa femme dans la matinée. Il avait conduit les enfants à l'école et était rentré à la maison pour une courte période avant de repartir pour un rendez-vous à la banque. Il l'avait trouvée morte à son retour. Carol Bruce s'était étendue sur le canapé du bureau. Elle avait une balle dans la tête. Toute mort suspecte, même lorsqu'il s'agit d'un suicide, doit être minutieusement examinée. Avant de déplacer ou de toucher quoi que ce soit, la police prit des photos et mesura chaque centimètre carré de la pièce. Il y faisait d'ailleurs beaucoup plus chaud que dans le reste de la maison et il y avait une couverture sur le corps de la victime. Un Colt de calibre 32 se trouvait sur la moquette. Un gant de jardinage était placé bizarrement sur la main de la victime. À première vue, il pouvait s'agir d'un suicide, mais le détective Bryant avait des soupçons.
Le gant était partiellement enfilé. Il ne recouvrait pas la main comme lorsqu'on l'enfile soi-même.
Les policiers notèrent les moindres détails de la scène. L'arme se trouvait à plus de 60 cm de la main de la victime. La pièce surchauffée avait eu un effet sur la température du corps, et par conséquent, il serait plus difficile de déterminer l'heure de la mort. Les policiers doutaient de plus en plus de l'hypothèse du suicide de Carol Bruce. Ils craignaient qu'on ne l'ait aidé un peu. À Farmville, en Virginie, le détective Bryant enquêtait sur la mort mystérieuse de Carol Bruce. Il commençait à croire qu'elle avait été assassinée. Pour le vérifier, il procéda d'abord à une analyse de l'arme à feu. Le numéro de série indiquait que l'arme avait été achetée dans la région. Il se rendit interroger son propriétaire. Ce dernier lui apprit qu'il avait signalé ce lettre fait voler 5 mois plus tôt dans sa voiture, alors qu'il se trouvait dans le quartier des Bruce. Le propriétaire ne se cacha pas du fait qu'il gardait cette arme dans sa voiture, mais il fut incapable d'expliquer comment il s'était retrouvé dans la main de Carol Bruce. À la morgue, le médecin légiste confirma que la victime était morte d'une balle à la tête. Le projectile était entré par la tempe droite et s'était logé dans la partie gauche du cerveau. Malheureusement, l'autopsie ne permit pas de déterminer si c'était elle qui avait tiré. L'arme et la balle recueillies dans le crâne de la victime furent envoyées au laboratoire judiciaire de l'État. On procéda à un tir d'essai. Le réservoir d'eau freine le projectile sans l'abîmer. Les experts peuvent ensuite comparer la balle tirée à celle qui provient de la scène du crime. Dans le cas présent, les rayures et les cloisons du projectile étaient trop légères pour être analysées. Les experts comparèrent cependant la douille de la scène du crime à celle obtenue lors du tir d'essai. Leur conclusion, l'arme trouvée sur la scène était bien celle qui avait tué la victime. mais on ignorait toujours qui avait appuyé sur la détente. Des amis de Carol avaient déclaré que sa relation avec Robert était difficile. Carol était une femme dynamique. Elle était professeure d'éducation physique au collège de la région et se préparait à obtenir son doctorat. Puis, 3 jours avant la remise de son mémoire, elle s'était suicidée. C'était pour le moins bizarre.
Elle s'est toujours opposée à ce que son mari ait une arme à feu à la maison. C'était donc plutôt étrange qu'il y en ait une. De plus, il était improbable qu'elle l'ait volée, et encore plus qu'elle s'en soit servie pour se tuer.
Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction dans la maison. S'il ne s'agissait pas d'un suicide, le suspect le plus plausible était donc Robert Bruce, qui était bénéficiaire de l'assurance-vie de $100,000 de sa femme. Bruce était avocat, mais il s'était fait rayer du barreau pour avoir détourné $30,000 d'un de ses clients. On l'avait condamné à rembourser cette somme. Il avait donc besoin d'argent. Après 16 ans de mariage, Carol avait décidé de demander le divorce. Son avocat avait enjoint Robert de lui faire parvenir l'état de sa situation financière. Ce dernier n'avait pas fait de déclaration d'impôt depuis 5 ans. Après la mort de Carol, il avait purgé une peine d'emprisonnement de quelques mois pour le détournement de fonds. Pendant son incarcération, l'enquête s'était poursuivie. Le détective consulta les transcriptions des interrogatoires de Bruce en espérant reconstituer les faits et gestes du suspect le jour du décès de sa femme. Des témoins l'avaient vu déposer ses enfants à l'école le matin. Puis Bruce avait déclaré s'être rendu à un immeuble dont il était propriétaire, mais personne ne l'y avait vu. Il avait ensuite rencontré un avocat à la banque. Les détectives interrogèrent l'avocat. Ce dernier avait rencontré Robert Bruce entre 11h et midi. Tout de suite après ce rendez-vous, Bruce était parti. C'est la cousine de sa femme qui l'avait vue ensuite. Elle travaillait dans une boutique de vêtements et Bruce s'arrêtait de temps à autre pour discuter un peu avec elle. Il était parti vers 13h pour rentrer chez lui et avait découvert sa femme morte.
En ce qui concerne ses déplacements, il n'avait pas d'alibi entre 9 et 11 heures. Sinon, le reste du temps, il avait des témoins.
Ce laps de temps était assez long pour permettre à Bruce d'assassiner sa femme. Bryant espérait maintenant prouver par le biais de la criminalistique qu'elle était bien morte au cours de ce laps de temps. Il téléphona à Marcella Fierro, le médecin légiste de l'État de Virginie. Malheureusement, déterminer à quelle heure la mort s'était produite pouvait se révéler difficile.
Nous ne pouvons évaluer précisément l'heure de la mort. Nous nous basons sur la dernière fois où la personne a été vue en vie par un individu fiable, et ce mot est le mot-clé, et le moment où la victime a été trouvée morte.
La température du corps de Carol laissait présumer qu'elle était morte peu avant l'arrivée des policiers. Cependant, l'état de raideur cadavérique était déjà avancé et indiquait que le décès avait eu lieu quelques heures plus tôt.
Elle semblait être morte depuis plus longtemps que ce qui nous avait été rapporté.
De fait, l'évaluation par Fierro du moment de la mort de la victime correspondait au moment où le suspect avait eu l'occasion de commettre un meurtre. Au laboratoire de criminalistique de Richmond, l'experte Anne Davis fit un test pour établir si Carol Bruce pouvait avoir tiré le coup de feu fatal avec une main partiellement gantée. Elle appliqua une pression de plus en plus forte sur la détente afin de déterminer le degré de pression requise pour que le coup parte. Il fallait une pression minimale de 4 kg de sang pour appuyer sur la détente. Si la main était gênée par un gant de jardinage, l'opération devenait très difficile, voire impossible. De son côté, l'expert en armes à feu Jim Pickleman considéra l'affaire sous un autre angle. Il reconstitua la scène du crime en se basant sur les photos. il se servit d'un mannequin pour recréer la trajectoire du projectile. Selon l'angle du coup de feu, la victime n'avait pas pu activer l'arme seule. De plus, les brûlures causées par la poudre indiquaient que l'arme avait été maintenue fermement contre la tempe, ce qui est inhabituel dans les cas de suicide. En résumé, la distance de l'arme et la trajectoire du projectile ne permettaient pas de conclure à un suicide. Les détectives disposaient enfin de leurs preuves. Carol Bruce n'avait pas appuyé sur la détente. En mai 1993, Robert Bruce, qui venait de terminer sa peine pour détournement de fonds, fut arrêté à nouveau pour meurtre. Les policiers croient que le matin de l'homicide, Carol était endormie sur le canapé. Robert est entré dans la pièce avec, à la main, l'arme à feu volée quelques mois plus tôt. La pièce surchauffée et le gant étaient destinés à berner les détectives. Il a tué sa femme d'une seule balle et maquillé la scène pour que son meurtre ressemble à un suicide. Il a ensuite recouvert le corps d'une couverture et enfilé maladroitement le gant sur la main de sa femme.
L'affaire Bruce était particulière du point de vue de la criminalistique. Ces cas sont en quelque sorte des déguisements. Ce que nous observons n'est pas ce qui s'est réellement produit. Quelqu'un a maquillé la scène pour que l'on attribue la cause de la mort à une autre cause.
Mais grâce aux sciences judiciaires, le stratagème de Bruce avait été mis à jour. Il fut condamné à la prison à vie. Lorsque les détectives enquêtent sur ce type de meurtre, ils doivent suivre deux pistes. La première leur permet de découvrir la cause réelle de la mort. La seconde est plus sinueuse, mais elle mène au meurtrier. Vers 22 heures, le 12 juin 1994, des policiers furent dépêchés sur la scène d'un accident de la route sur un chemin isolé de Little Mountain, en Caroline du Sud. Une voiture avait apparemment quitté la route et abouti dans un ravin. La conductrice était morte. Mais, fait étrange, son véhicule n'avait subi pratiquement aucun dommage. Les agents du service de police de la Caroline du Sud examinèrent le véhicule. Il y avait du sang sur la banquette arrière. L'intérieur de la voiture était un peu endommagé, le levier de vitesse était au neutre. À en juger par l'empreinte de chaussure sur la fenêtre arrière, du côté du passager, il y avait eu une violente lutte. Lee Foster, le shérif de Newberry, en Caroline du Sud, savait qu'il ne s'agissait pas d'un accident.
Nous avons remarqué que le véhicule n'avait subi aucun dommage, et surtout, rien qui ait pu provoquer les taches de sang ou les blessures sur le corps. Tous ces éléments indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la route. Il s'était passé quelque chose d'anormal.
Une fois le travail d'analyse complété, les détectives se mirent à la recherche des papiers d'identité de la conductrice. Elle s'appelait Victoria Beckham. Les policiers terminèrent leur examen de la scène. Pendant que des agents avisaient la famille de la victime, sa voiture fut remorquée à la fourrière pour subir un examen exhaustif. Les agents entrèrent en contact avec Stephen Beckham, le mari de la victime, pour lui annoncer le décès de sa femme et lui faire part des soupçons des détectives. Ce dernier se rendit immédiatement au poste de police pour répondre à quelques questions. Il avait vu Victoria pour la dernière fois vers 18h15 au moment où elle déposait les enfants chez lui. Victoria et Stephen s'étaient séparés depuis peu et Victoria s'était installée chez ses parents. Stephen et elle se partageaient la garde de leurs trois enfants. Depuis la séparation, elle avait trouvé un emploi et décidé de poursuivre Stephen pour obtenir la garde exclusive des enfants. L'autopsie révéla qu'il s'agissait d'un meurtre. Le violent traumatisme à la tête et à la nuque de Victoria Beckham avait été causé par un objet contondant. Le médecin légiste déclara que ses voies respiratoires avaient été écrasées et qu'elle était morte par asphyxie. Ce qui avait causé ses blessures avait laissé une marque inhabituelle impossible à identifier. Une chose était sûre, elle n'avait pas été causée par un accident de la route. Lorsque son corps avait été découvert à 22 heures, il était déjà froid et commençait à raidir. On en conclut qu'elle était morte vers 18h30, c'est-à-dire juste après son départ de la maison de Stephen. Comme la maison de Beckham était le dernier endroit où la victime avait été vue en vie, les détectives n'eurent aucun mal à obtenir un mandat de perquisition. Ils y trouvèrent une chaussure de course sur laquelle il y avait une goutte de sang. Il restait à vérifier si c'était celui de la victime. La chaussure fut envoyée au laboratoire judiciaire de l'État où la sérologue Nancy Scraba procéda aux analyses d'usage. Elle commença par recueillir le sang à l'aide d'un coton-tige trempé dans de l'eau salée, puis ajouta une solution à base de peroxyde d'hydrogène et de phtaléine. Cette combinaison chimique entre en réaction avec l'hémoglobine du sang et il devient rose. Maintenant, pour s'assurer qu'il s'agissait de sang humain, Scraba procéda à une électrophorèse afin d'isoler les protéines humaines. Malheureusement, l'échantillon dont elle disposait n'était pas assez important pour déterminer le groupe sanguin. Dans le cas du sang de la victime découvert dans la voiture, il y en avait amplement pour compléter les analyses. On en recueillit sur les sièges avant et arrière et également sur une portière arrière du côté extérieur. Tous les échantillons étaient du groupe sanguin A, celui-là même de la victime. Les experts judiciaires disposaient d'un autre outil dans leur arsenal. Après avoir recueilli le sang et les micro-indices, ils se mirent à la recherche d'empreintes digitales. Cet examen doit être effectué en dernier car il peut détruire les autres indices. Plus de 30 empreintes furent prélevées. La plupart d'entre elles provenaient des Beckham et quelques-unes des agents qui avaient découvert la voiture. Elles étaient presque toutes floues. C'était maintenant au tour de l'expert David Warren Black du service judiciaire de l'État de passer à l'action.
Ce n'était pas l'image de l'empreinte parfaite qu'on voit parfois. Elles étaient difformes, barbouillées, tachées. Il s'agissait d'empreintes partielles, fragmentées. Certaines d'entre elles avaient la taille de la gomme à effacer au bout d'un crayon.
Chacune de ces empreintes devait être comparée aux centaines qui se trouvaient dans la base de données de la police. Cette opération prendrait du temps. Les détectives étaient cependant encouragés par la découverte d'une empreinte partielle sur le côté extérieur de la portière arrière.
Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une empreinte faite dans le sang, on pouvait présumer qu'elle avait été faite après le meurtre de Victoria Beckham.
Pendant l'analyse de l'empreinte, les policiers retournèrent sur la scène et arrêtèrent les automobilistes en espérant trouver des témoins de l'accident. Certains d'entre eux avaient aperçu une voiture de couleur dorée garée tout près de la scène plus tôt le même jour. Pour le shérif Lee Foster, la présence de ce véhicule était significative.
Cette voiture était importante car elle pouvait être reliée au meurtre. Il était également possible que son propriétaire ait été témoin de quelque chose.
Malheureusement, personne n'en connaissait la marque, le modèle, ni le numéro de plaque d'immatriculation. Puis, un des conducteurs interrogés déclara avoir lui aussi aperçu la voiture de couleur or.
Selon lui, il s'agissait d'une Pontiac Grand Prix. Il se rappelait même du type de roue du véhicule.
Les policiers effectuèrent des recherches dans leur base de données et obtinrent la liste de toutes les Pontiac Grand Prix de la région. Malheureusement, il n'était pas possible de faire une recherche par couleur et il y en avait beaucoup trop pour les vérifier une à une. Une année s'écoula sans nouvelles pistes ni suspects. Les journaux et la télévision faisaient parfois état du meurtre de Victoria Beckham et mentionnaient le véhicule de couleur or, le seul indice dont ils disposaient. Le public était invité à transmettre toute information à ce sujet. Ces articles éveillèrent l'attention d'un ami de Stephen Beckham. il déclara aux enquêteurs que Steven était un habitué d'une boîte de striptease de Myrtle Beach. Il se rappelait avoir aperçu une Pontiac Grand Prix Or à plusieurs reprises devant cette boîte. Les policiers se rendirent interroger le propriétaire de la boîte, muni d'un mandat de perquisition. La voiture lui appartenait, mais un an plus tôt, il l'avait prêtée à Richard Anderson, un de ses portiers. Les policiers firent remorquer le véhicule à leur laboratoire pour le faire examiner de plus près. Le crime s'était produit un an auparavant. De plus, rien ne prouvait qu'il s'agissait de la voiture dont les témoins avaient parlé. Les techniciens procédèrent tout de même à un examen en règle. Dans le coffre arrière, ils découvrirent des empreintes qui n'appartenaient pas au propriétaire. Les policiers retracèrent le portier, Richard Anderson. Ce dernier accepta de se soumettre au détecteur de mensonges relativement au meurtre de Beckham. Il nia connaître la victime ou savoir quoi que ce soit à propos du meurtre, mais il échoua son test. Les détectives lui annoncèrent la nouvelle.
Anderson a refusé de coopérer avec nous, mais il a tout de même accepté de fournir des échantillons de ses cheveux et de son sang afin que nous procédions à des analyses génétiques, car c'était un des aspects de notre enquête.
Mais en route vers l'hôpital, Anderson demanda à être conduit au bureau du procureur. Il voulait faire des aveux.
Il a dit qu'il avait été payé pour tuer Victoria Beckham à cause des conflits entre elle et Steven. Sa version des faits variait quelque peu d'une fois à l'autre, mais ce qui était sûr, c'est qu'il avait été engagé par Steven Beckham pour le débarrasser du corps de sa femme.
Selon Anderson, le week-end avant le meurtre, Beckham et lui s'étaient rencontrés pour organiser leur plan. Avant cette rencontre, ils avaient planifié le meurtre par téléphone à des endroits convenus. Ces endroits correspondaient au relevé de Beckham. Ce dernier avait prévu tuer sa femme après qu'elle eût déposé les enfants chez lui. Elle était censée être morte lorsque Beckham remettrait le corps à Anderson. Mais Beckham l'avait frappée à l'aide de la crosse de son pistolet et elle n'était qu'inconsciente. Anderson décrivit l'arme à feu avec laquelle Beckham avait frappé sa femme. Après le départ de ce dernier, il avait dû l'achever à l'aide de pinces coupantes et maquiller la scène en accident. Au laboratoire, des techniciens cherchaient des indices pour corroborer sa version des faits. Des pinces découvertes dans sa maison furent analysées. Malheureusement, il n'y avait rien de concluant. Le médecin légiste confirma toutefois que la blessure qui avait causé la mort de la victime pouvait avoir été infligée avec cet outil. Les empreintes digitales d'Anderson furent comparées à celles recueillies sur la Grand Prix et la voiture de la victime. Elles étaient identiques. Les policiers pouvaient maintenant arrêter Steven Beckham et fouiller sa maison. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, il n'y avait personne. Ils découvrirent une arme à feu correspondante à celle décrite par Anderson. Les blessures à la tête de la victime pouvaient avoir été causées par cette arme. Les détectives avaient prouvé la présence d'Anderson sur la scène. Les relevés téléphoniques leur permettraient de prouver l'implication de Beckham dans le meurtre. 4 jours plus tard, ce dernier fut arrêté à Chapin, en Caroline du Sud. Selon la déposition d'Anderson et la reconstitution des policiers, Victoria a laissé ses enfants chez Steven. Ce dernier lui a demandé de monter à bord de sa voiture pour faire une course. Alors qu'ils étaient dans un endroit isolé, Steven a arrêté le véhicule. Il a frappé Victoria. Cette dernière a perdu connaissance, mais n'est pas morte. Lorsqu'Anderson a constaté qu'elle était encore en vie, il a terminé le boulot à la place de Beckham, puis maquillé la scène. Le détective Foster croit que Steven en voulait à sa femme de l'avoir quittée. Il n'avait plus d'emprise sur Victoria et craignait de perdre ses enfants. Il avait alors décidé de se débarrasser de sa femme.
Il a tenté de convaincre Victoria qu'elle n'aurait jamais la garde des enfants, mais elle a vite compris qu'il mentait. Il devrait se battre pour les avoir.
Richard Anderson et Steven Beckham furent reconnus coupables d'homicide et condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Victoria Beckham. La plupart des meurtriers croient qu'ils pourront cacher leur crime derrière quelques mensonges. Mais en fait, ils ne se mentent qu'à eux-mêmes. La vérité est inscrite dans les indices qu'ils laissent derrière eux.